Où est-ce que l'erreur peut se cacher le mieux, sinon derrière le mot vérité? Les croyants, là, qui semblent dire « Nous avons la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, il faut les fuir comme des serpents sonnettes. » Ils ont la capacité de bouleverser les esprits en plaçant des fardeaux sur les épaules des disciples. Ils vous placeront sous un joug qui vous enlèvera la joie de votre salut, puis vous rendront encore plus malheureux que vous l'étiez avant de connaître le Seigneur. Aujourd'hui, l'expression « l'amour de la vérité » sert de voile à tous les orgueils, à toutes les duretés, à toutes les divisions. Le mot « vérité » sert de prétexte à la formation de toutes les sectes, sert d'excuse à l'intransigeance, à la dureté, et sert de permission pour lancer tous les anathèmes contre ceux qui diffèrent d'opinion. Le Seigneur est si fatigué de tous ces hypocrites et fauteurs de troubles qui appesantissent la vie chrétienne tout entière. Ces gens-là courent librement dans les églises depuis si longtemps. Par la grâce de Dieu, je vais dévoiler toute leur fausseté pour finalement vous montrer ce qu'est vraiment l'amour de la vérité selon la Bible. Moi, je ne suis pas de ceux qui se plaisent à dénoncer des choses pour le plaisir de dénoncer. Quand je dénonce quelque chose, c'est pour apporter la solution par la suite. Tant de chrétiens connaissent la Bible par cœur sans avoir eux-mêmes de cœur. Ceux-là sont souvent plus à craindre que ceux qui ne la connaissent pas du tout. Ce sont des bouchers avec des Bibles. Puis ne vous trompez pas, ceux qui vous lancent 32 versets bibliques dans une conversation cachent derrière une grande pauvreté spirituelle. Souvent, ces gens vous blessent en ouvrant la bouche. Ils vous parlent grossièrement, n'emploient jamais de gants blancs. Il peut arriver qu'en dernier recours, Dieu ait quelque chose d'important à nous dire, de nature à nous blesser un peu. Mais nous sentons qu'il nous blesse avec amour. Nous sentons en nous-mêmes que la voix qui nous corrige est une voix qui nous aime. Tandis que les légalistes parlent d'une manière injurieuse et se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Jude 10. La voix de Jésus est douce, rassurante, chaude et édifiante. Tous ceux qui l'ont entendue la reconnaissent et veulent l'entendre encore. La voix de Jésus n'est pas comme les autres voix. Sa voix perce au milieu d'un millier d'autres. Elle est perçue par tous les cœurs qu'il aime. Tout le monde respectera ce que vous croyez si vous n'essayez pas de le leur enfoncer dans la gorge. Tout le monde écoutera ce que vous avez à dire si vous parlez avec une attitude qui laisse libre. Mais celui qui est dogmatique perdra des amis précieux. L'étude de la Bible est l'endroit préféré où vont demeurer les croyants qui ont le cœur endurci et qui ont peu ou pas de charité fraternelle. C'est comme s'ils essayaient de pallier à un manque, le manque de charité. Ils essaient de pallier leur manque de charité par une overdose de connaissances bibliques. Et je le répète, aux yeux de Dieu, nos croyances doctrinales personnelles ne nous élèvent en rien du tout au-dessus des autres. Notre interprétation de l'Épître aux Romains ou de l'Épître aux Hébreux n'impressionne pas le Seigneur du tout. Notre interprétation de la Bible ne nous sauvera pas, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Saint Augustin a écrit « Une pieuse ignorance vaut mieux qu'une science présomptueuse. L'ignorance jointe à la piété vaut mieux qu'une science infatuée d'elle-même. » Alors, frères et sœurs, si vous ne lisez pas la Bible à tous les jours pendant 2 heures, là, Dieu va vous aimer quand même. Soyez sans inquiétude. Mettez-vous en garde contre ceux qui ont un esprit de religion, c'est-à-dire qui sont inflexibles et ne font consister leur salut qu'à la surface théologique de la Bible. Ils vous feront beaucoup de mal et bouleverseront même vos familles si vous les laissez faire. Ils feront tout ça au nom de la vérité biblique. Puis ils n'auront aucun remords de conscience à le faire, leur conscience ayant été cautérisée, c'est-à-dire devenue insensible, indifférent, dur, sévère, cruel, impitoyable, inflexible, sourde, impassible, froide, endurcie, blindée. Il y a des chrétiens comme ça à peu près dans chaque église. Mettez-vous en garde contre eux. Ces chrétiens vivent encore sous l'Ancien Testament, et ils essaient d'y ramener les autres. Ils ne sont pas heureux et veulent empêcher les autres de l'être. Ils voudraient remplacer l'Évangile par le Deutéronome s'ils étaient capables et vous rendre malheureux avec eux. Leur interprétation de la Bible est horrible. Ils ont continuellement le fouet sur la langue. Ils s'imaginent ressembler au Seigneur. Refaites la lecture de l'Évangile selon Jean, que j'appelle l'Évangile de la vérité. Le mot « vérité » y est mentionné 75 fois, et pas une seule fois, elle n'est en rapport avec la théologie ou les croyances. Les ivrés dans l'Église connaissent la Bible, mais pas la grâce. Également, les boucs qui sont dans l'Église parlent de vérité tout le temps, mais ne connaissent la charité nullement. Ces faux frères iront en enfer avec leur Bible et leur livre d'études dans leurs bras. Quelqu'un a dit que le fanatisme, c'est le redoutable amour de la vérité. On ne parle pas vraiment d'amour, mais plutôt de rage de la vérité. Tout ce qui n'est pas motivé par l'amour de Dieu est poussé par la chair ou par des esprits malins. Les croyants légalistes parlent de la vérité avec une attitude qui répugne. Ils parlent avec arrogance des choses dont le Seigneur a parlé avec douceur. Ils disent durement et avec orgueil ce que Jésus a enseigné avec douceur et humilité. Les gens qui aiment à se croire seuls dans la vérité ne font que publier leur orgueil. Les chrétiens légalistes n'ont pas l'esprit de Jésus en eux. Ce sont les faux circoncis modernes dont parlait Paul dans ses lettres et dont il mettait continuellement les églises en garde. Dieu est amour. Mettez la Bible entre les mains d'une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, puis vous allez créer un monstre. Et laisser une telle personne devenir pasteur et prêcher l'Évangile dans les églises, c'est de l'inconscience. Je dis que les écoles bibliques devraient être beaucoup plus sélectives. La Bible est bonne, mais ne mettez jamais la Bible entre les mains du diable. De quoi le diable se sert le plus pour diviser les églises? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour tenir les chrétiens liés sous des fardeaux difficiles à porter? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour culpabiliser les chrétiens à outrance et les tenir continuellement courbés? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour blesser les gens du haut de la chair? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour scandaliser les gens de l'extérieur de venir au Christ? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour manipuler les consciences, obliger les chrétiens à faire des choses qui les rendent malheureux? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour assujettir, asservir, dominer et soumettre les chrétiens? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour justifier le manque d'amour, le manque de douceur, le manque de tolérance, de compréhension et de miséricorde? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour justifier les péchés d'orgueil, d'arrogance, de dureté, de sévérité, de brutalité verbale et même de cruauté mentale? De la Bible mal interprétée. De quoi le diable se sert le plus pour justifier la persécution envers ceux qui croient différemment d'eux? De la Bible mal interprétée. Frères et sœurs, ils sont nombreux les chrétiens que le diable a poussés à se jeter en bas du temple, appuyés sur des versets bibliques mal compris, hors de leur contexte. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez combien il est important que vous connaissiez quelle sorte de cœur possède celui qui vous enseigne en avant dimanche, selon qu'il est écrit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. 1 Timothée 1, 5 à 7. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Premièrement, ils veulent, sous-entendant qu'il s'agit là d'une initiative personnelle. Concernant n'importe quel ministère, ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais de celui que le Seigneur appelle. Sans appel du Seigneur, il ne s'agit que d'une vaine poursuite de gloire personnelle. Résultat, ils enseignent, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Frères et sœurs, il y a une différence entre savoir la Bible par cœur et savoir ce qu'elle veut dire. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Écoutez ceux qui vous édifient, fuyez ceux qui vous mortifient. Bouchez-vous les oreilles avec des épines plutôt que de leur donner accès à votre âme. À ceux qui aspirent à enseigner, laissez-moi vous donner un conseil précieux. Si vous voulez vraiment plaire au Seigneur, mettez votre zèle à cultiver les fruits de l'esprit. Cultivez l'humilité, la pureté sexuelle, la pureté d'intention. Excellez en miséricorde, en amour fraternel, en bonnes œuvres. Cultivez l'élargissement de vos entrailles et la tolérance doctrinale. Apprenez à consoler ceux qui pleurent et à fortifier les faibles. Ne perdez pas le temps à faire les petits docteurs de la Bible ou à jouer aux petits prophètes. C'est tellement pas à ça que Dieu nous appelle. J'ai à peu près 40 ans de vie chrétienne derrière moi. Puis aujourd'hui, je peux dire que de 0 à 15 ans, là, dans le Seigneur, on est encore des bébés dans la foi. De 0 à 15 ans, lisez la Bible pour vous-même et non pour l'enseigner aux autres. Puis tout ce que je dis là, je l'ai appris de mes erreurs. Partagez ce que le Seigneur fait dans votre vie, mais n'enseignez pas. Enseignez ça, vous pourrez toujours le faire plus tard. Vous pourrez commencer à enseigner quand vous aurez entre 15 et 20 ans dans le Seigneur, pas avant. Même 30 ans, c'est encore mieux. Vous saurez le dire et le reconnaître vous-même arrivé à 30 ou 40 ans dans le Seigneur, vous allez regarder en arrière et vous allez dire « Mon Dieu, ce que j'ai pu enseigner de bêtises et mal conseiller les gens. » Les non-croyants ont un proverbe dans le monde. « Si tu ne sais pas comment le faire, enseigne-le. » Ne leur ressemblons pas. La vie chrétienne doit être expérimentée afin d'être comprise et de pouvoir en parler ensuite. Je dis pas ça pour critiquer, mais quand j'entends des petits jeunes qui sortent de l'école biblique, puis que, fort de leurs 3 longues années d'études maternelles, se mettent à prêcher autoritairement, j'ai tellement envie de pleurer, là. Ils lancent des tas de paroles dans les airs pendant des heures le dimanche. Il y a très peu ou pas de nourriture dans tout ce qu'ils disent. Les gens sont assis là, ils ont tous mal au cul sur leur chaise, puis dans leur figure, c'est écrit « C'est long, mais je tiens bon, ça finira bien par finir, j'ai hâte d'aller dîner. » C'est-tu vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? 1 Jean 4,6 « Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, nous les apôtres. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. » L'esprit de l'erreur n'est pas l'erreur doctrinale, mais l'erreur de l'orgueil, qui consiste en une insoumission et à l'indépendance de l'autorité apostolique à l'époque. L'unité de l'Église chez les premiers croyants était excessivement importante. Jean dit ici que ceux qui reniaient l'autorité des apôtres et se séparaient de l'Église n'étaient pas de Dieu. Alors nous voyons que dans la Bible, la vérité et l'erreur ne font pas référence à la théologie. L'esprit de la vérité, c'est l'amour de l'unité. Et l'esprit de l'erreur, c'est un esprit de secte, une influence diabolique dans laquelle glissaient certaines personnes à l'époque. Se séparer de l'autorité du collège apostolique, c'était se séparer de Christ avec tout ce que ça implique. Alors c'est une question très grave. Quelqu'un me dit un jour, « Bon, il n'y a rien que la vérité qui sauve. » OK, mais premièrement, moi, j'ai jamais vu ça écrit dans la Bible. C'est encore un dicton évangélique populaire, fabriqué de toutes pièces, qui résonne bien, qui a l'air vrai, mais qui ne se trouve pas dans la Bible. Ce qui fait que cette phrase est une tradition d'homme qui peut devenir dangereuse, induire en erreur. Il n'y a rien que la vérité qui sauve. Ben moi, ça dépend. Ce que tu dis, quand tu dis vérité, est-ce que tu parles de l'évangile de Christ ou de tes vérités doctrinales à toi? Ou de ta façon d'interpréter la Bible? Est-ce que tu veux dire que si j'interprète pas la Bible comme toi, je suis pas sauvé? Alors faites attention à ce que vous mettez dans vos mots. Les pharisiens connaissaient leur Bible par cœur, à l'endroit, à l'envers, de travers, puis dans les langues originales en plus. Mais ils avaient même pas effleuré la surface de la vérité qui est Dieu. Les pharisiens, là, ils n'aimaient pas le Seigneur, ils aimaient la Bible. Allez pas croire que c'est la même chose, mes amis. Regardez ce qu'on obtient quand on place Jean 5, 39 et 42 à la suite de l'autre. Vous sondez les Écritures, mais vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. En d'autres mots, c'est pour ça que vous comprenez tout de travers. L'Esprit de Christ est un esprit d'amour. Et à moins que l'amour de Dieu n'ait rempli votre cœur par le Saint-Esprit, vous n'allez rien y comprendre non plus. C'est l'amour de Dieu qui est l'interprète de la Bible. Je pense que j'ai jamais rien dit d'aussi important de ma vie. Alors je le répète, c'est l'amour de Dieu qui est notre interprète de la Bible. 1 Timothée 1:5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Beaucoup de croyants ne s'intéressent pas à acquérir la charité et ne l'ont même jamais recherchée de leur vie. Ils sont de ceux qui trouvent leur valorisation dans la connaissance, mais cette valorisation n'est sans aucun mérite parce qu'elle ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. Comme on se sent grand quand on connaît la Bible par cœur, on regarde les autres de haut. Mais à elle seule, l'étude de la Bible endurcit le cœur. Les croyants qui n'ont pas la charité qui sauve auront la dureté qui perd. Le propre juste se sert de sa Bible comme d'un piédestal pour humilier ceux qui ne la connaissent pas. Il se sent supérieur. Dans son esprit égaré, la connaissance est une couronne. Mais le vrai docteur des Écritures n'est pas celui qui soigne les Écritures, mais celui qui soigne les gens avec les Écritures. Ce que le jeune chrétien doit faire après sa conversion, c'est pas d'apprendre la Bible par cœur, c'est de prier, c'est d'aspirer, rechercher avidement à reproduire le caractère de la charité décrite en 1 Corinthiens 13. La connaissance des vérités bibliques, ça viendra plus tard. Dieu nous a donné la Bible comme il nous a donné la terre, pour en tirer nourriture et subsistance. La terre nous a été donnée pour nous nourrir, non pour en faire de la boue et pour lancer à la figure des autres. Dieu nous a fait beaucoup confiance en nous donnant sa parole, sachant que l'homme peut, avec la même Bible, donner la vie ou donner la mort autour de lui. On ne sera même pas jugé à ce que nous aurons cru, mais on sera jugé à la charité que nous aurons eue ou n'aurons pas eue. Matthieu 25, 31-46. Beaucoup pourtant appuient encore leur salut sur leur théologie et négligent totalement la sanctification de leur cœur. Ils foncent droit dans un mur tous ceux qui élèvent leur précieuse vérité au-dessus de la charité. Connaître la Bible par cœur sans la charité, c'est que de la religion. On ne peut pas arriver à la vérité seulement à lire la parole écrite. Ce n'est pas la parole qui conduit dans toute la vérité, mais l'Esprit. Ce n'est pas l'étude de la parole qui donne le Saint-Esprit, mais l'étude de l'Esprit qui donne un sens à la parole. Dieu est amour, et les croyants qui n'ont pas reçu l'Esprit de cet amour ne comprendront jamais la Bible. Quand Jésus a dit « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité », il ne s'agissait pas de vérité doctrinale, mais de réalité spirituelle. En d'autres mots, ce passage, on pourrait le lire ainsi, « L'Esprit de vérité vous conduira dans la révélation de toutes les réalités spirituelles concernant le grand salut de Dieu. » Je le répète à elle seule, l'étude biblique n'est souvent bonne qu'à créer des monstres. L'apôtre Pierre a écrit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. » 2 Pierre 1:5. Les chrétiens modernes ont sauté l'étape du milieu, qui est la plus importante. Ils ont joint à la foi immédiatement la science, la connaissance biblique, oubliant que la découverte et la compréhension des mystères de Christ est impossible aux âmes qui n'ont pas acquise une vertu éprouvée et un caractère à la ressemblance de Christ. Ne me dis pas ce que tu crois, montre-moi comment tu ressembles à Jésus. Un cerveau meublé trop rapidement laisse le cœur vide, puis ce vide, c'est l'ennemi qui va le remplir. Il n'y a jamais de vide dans la vie spirituelle. Ce que le Seigneur ne remplit pas, c'est le diable qui va le remplir. Il y a beaucoup d'ivraies dans nos églises. Il y a beaucoup de croyants, entre guillemets, qui sont par nature encore sans cœur ni miséricorde. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Leur donner une Bible, c'est comme mettre une épée dans la main d'un aveugle. Hein? Restez pas autour. L'étude des Écritures ne devrait être autorisée qu'à ceux qui ont d'abord prouvé avoir reçu l'Esprit avec l'évidence de posséder un cœur de chair. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Tous les chrétiens qui sondent les Écritures ne sont pas obligatoirement sauvés, ni même d'authentiques chrétiens, loin de là. Les docteurs de la loi se donnaient la mort à eux-mêmes avec la loi parce qu'ils se cramponnaient à leur cœur dur. Les bibliquins ne sont pas de meilleurs chrétiens pour autant. La Bible ne sauve pas, Jésus sauve. Peu importe les bonnes doctrines auxquelles tu penses adhérer dans ta tête, là, si ta foi et ton espérance de salut ne reposent que sur ta belle connaissance biblique, tu es perdu. Tu as besoin d'une rencontre personnelle avec Christ, sinon tu es un croyant malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et possiblement, tu n'es pas né de nouveau encore. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Je te conseille d'étudier la Bible davantage. Non, Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. L'homme qui ne s'est pas vu comme Dieu le voit est encore dans ses péchés. Si vous n'avez pas ça, là, si vous n'avez pas cette connaissance-là de vous-même, vous ne savez pas l'ABC de la vie chrétienne. Aujourd'hui, les chrétiens qui connaissent beaucoup la Bible sont regardés comme des chrétiens forts, des héros, là, presque comme une race supérieure dans certains milieux. Mais détrompez-vous, c'est tellement faux. Les pires scélérats que j'ai connus, les pires abuseurs de confiance, les trompeurs, les pires brutes dans les églises, je les ai trouvés très souvent parmi les gens qui avaient toujours le nez dans la Bible. Étrangement, là, ils connaissaient beaucoup la Bible, mais très peu le Seigneur. Car Dieu est amour. Et eux, tout à l'inverse, étaient des taureaux avec une Bible. Vous en connaissez des gens comme ça? Il y en a à peu près dans toutes les églises. C'est pas difficile à trouver. N'allez pas croire que vous savez tout sur Dieu parce que vous savez tout sur la Bible. Tant de chrétiens sont incapables de parler sans jeter 36 versets bibliques dans la conversation. Je vais vous surprendre, mais ce n'est pas là le témoignage d'une personne remplie du Saint-Esprit, mais bien tout à fait l'inverse. Beaucoup cachent leur ignorance de Christ derrière une connaissance biblique de façade. Ces moulins à versets sont toujours des personnes remplies d'elles-mêmes, qui ont une haute opinion d'elles-mêmes. Elles amènent rarement des gens au Seigneur. Au contraire, elles font fuir tout le monde. Puis en plus, elles sont fières de ça. Ces personnes-là pensent que si elles ont été rejetées par tout le monde, là, c'est parce qu'elles ont été fidèles à la parole de Dieu. Pense. Ils interprètent leur rejet comme un succès. Mes pauvres amis, si votre évangile fait l'effet d'une bombe puante autour de vous, vous n'avez pas le bon évangile. Le véritable évangile répand la bonne odeur de Christ. Il est dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus pour l'entendre, non que des grandes foules fuyaient de lui. Quand posséder la bonne doctrine c'est devenu notre principal souci de chrétien, là, je dis que la pomme est tombée très loin de l'arbre. Les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible. Puis leur premier souci, c'était de ressembler à Christ dans son caractère et dans ses vertus. Puis ils y arrivaient. Hein? C'est ça que notre christianisme moderne a perdu, grâce à notre obsession de la connaissance de la Bible. On essaie de brûler les étapes avec la connaissance, on n'arrive nulle part. Nous avons délaissé ce qui est le plus important de la vie chrétienne pour en donner à ce qui en avait le moins. Nous avons gaspillé le temps en disputes au lieu de le passer en bonnes œuvres. On a passé notre temps à nous quereller sur des doctrines alors qu'on aurait dû le passer à cultiver la charité. Les chrétiens modernes sont devenus de vrais petits docteurs de la loi, durs de cœur pour la plupart, puis qui ont très peu d'intimité avec le Seigneur. Nous vivons en pleine apostasie. Le christianisme n'a jamais été aussi superficiel, aussi faible dans le monde qu'à notre époque. Étonnamment, nous n'avons jamais eu autant de Bibles. Où est passé le vrai christianisme qui a jadis bouleversé le monde? 50 ans à peine après que le Christ soit monté auprès du Père, le christianisme était déjà répandu dans le monde entier, et tout ça sans la Bible. Alors, est-ce qu'on fait pas fausse route quelque part? Toutes nos querelles entre églises réjouissent le diable du matin au soir, parce que des églises occupées à se diaboliser là n'ont plus le temps d'évangéliser. La Bible est une grande bénédiction pour l'Église, mais elle est à la fois la plus dangereuse, parce qu'elle tombe souvent entre des mauvaises mains, puis des mauvaises mains, il y en a beaucoup. Quand on aime la Bible avec un cœur mauvais, on devient légaliste, sévère, et nous semons la mort partout sur notre passage. Quand une Église regarde le rigorisme comme une vertu, alors elle n'est devenue qu'une religion à colère contre laquelle Dieu va tirer vengeance un jour. Si la dureté et non l'amour est regardée comme spirituelle dans votre Église, alors vous êtes assis dans une synagogue, mes amis, pas dans une Église de Christ. Frères et sœurs, si notre spiritualité ne mène pas à la charité, alors il ne s'agit pas de spiritualité, mais d'une vaine enflure. Jean 6, 23, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Oui, mais est-ce que l'Esprit de Jésus est automatiquement venu habiter en chaque chrétien? En Actes chapitre 8 et 19, nous voyons des personnes qui avaient cru en Jésus, mais sans avoir reçu l'Esprit de Jésus. Et aujourd'hui, l'Église en est remplie de ces croyants-là. Alors leur condition spirituelle ne les qualifie pas du tout pour interpréter les Écritures. On dit souvent, sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de comprendre la Bible. Et moi, je dis que même avec le Saint-Esprit, on l'interprète tout croche quand même. C'est vrai qu'on a besoin de l'Esprit pour comprendre la Bible. C'est vrai, mais voici le problème. Même parmi tous les chrétiens qui ont reçu l'Esprit, pourquoi on n'est pas capable d'en trouver deux qui croient les mêmes choses? J'en ai vu toute ma vie, moi, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, interpréter la Bible tout de travers. Puis le premier que j'ai connu, c'était moi. J'ai vu des gens avec des dons de guérison, des paroles de connaissance à couper le souffle, et interpréter des passages de la Bible de façon absolument horrible. C'est l'Esprit de Jésus qui conduit dans toute la vérité. Alors je dis, qu'est-ce que l'Esprit de Jésus? Sinon, la douceur, la miséricorde, l'humilité, la sainteté sexuelle, les tempérances, la pureté d'un cœur sans mélange d'intérêts propres, le contentement, l'amour, la largeur des entrailles et l'amour de l'unité. C'est ça qui est l'Esprit de Jésus. C'est ça qui est l'Esprit de vérité. C'est ça qui va vous conduire dans toute la vérité. Si ces choses sont en vous, elles vous conduiront certainement dans toute la vérité. Mais celui en qui ces choses ne sont pas n'est qu'un beau parleur, un vain prédicateur, un vain discoureur. Pourquoi parmi les vrais chrétiens il se trouve différentes interprétations des Écritures? Parce que nous n'avons pas tous la même maturité dans le Seigneur, donc pas la même mesure d'Esprit-Saint. C'est aussi simple que ça. Plus nous allons avoir de maturité réelle dans le Seigneur, plus on va avoir de vraie lumière. Une croissance saine dans le Seigneur doit mener à un attendrissement de cœur avec les années, pas à un endurcissement. Pareillement, beaucoup de chrétiens qui étaient humbles au commencement de leur conversion se sont enorgueillis en vieillissant. L'orgueil est la première chose que nous avons vomie en nous convertissant. Pourquoi tant de nous y sommes-nous retournés? Voulez-vous savoir ce qui s'est passé? On a pris à la légère le fait que les mauvaises herbes arrachées repoussent. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le garder de quoi? Probablement des animaux qui, de temps à autre, étaient tentés de se payer une petite traite, là. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Si on ne veille pas à demeurer dans notre premier amour et dans notre première humilité, la chair va reprendre son domaine. Les esprits malins qui ont été chassés reviendront et détruiront tout ce qui nous avait été donné en acceptant le Seigneur. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que ça veut dire l'Esprit vous conduira à comprendre toute la Bible? Non. Ce passage ne veut pas dire que chaque petit chrétien va être capable de comprendre toute la Bible. C'est pas ça. C'est pas vrai, ça. Premièrement, dans ce texte-là, Jésus s'adressait aux apôtres. L'Esprit devait conduire les apôtres dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toute la révélation des mystères qui entouraient encore le grand salut de Dieu, l'œuvre rédemptrice de Christ, et tout le plan de Dieu concernant l'Église et son eschatologie jusqu'à son apogée final lors du retour de Dieu lui-même sur la terre. Puis ça, mes amis, c'est déjà accompli. On voit bel et bien les apôtres avoir reçu toutes les révélations nécessaires à ce sujet. On voit dans les Actes, les lettres de Pierre et de Paul, que tout a été effectivement révélé. C'est ça que Jean 16, 13 voulait dire premièrement. Maintenant, pour nous aujourd'hui, pour le commun des chrétiens, ce passage prend un deuxième sens, très intéressant. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans tout le caractère et ressemblance à Jésus. Plus nous allons maturer dans le Seigneur, et plus nous aurons de commerce avec son esprit, soit par la prière, les jeûnes, la louange, les partages, les lectures édifiantes, les corrections sanctifiantes, les sermons inspirés que nous entendons, les épreuves enseignantes et assagissantes de la vie, eh bien, plus nous connaîtrons Christ et serons amenés à sa ressemblance. Être conduit dans toute la vérité, c'est être amené dans toute sa sainteté, toute sa ressemblance de caractère, de cœur et de vertu. Si la Bible est absolument vraie, la compréhension que nous en avons est absolument imparfaite également. Si la Bible est la vérité, pourquoi tant de chrétiens qui la lisent sont-ils conduits en des erreurs les plus grossières les unes que les autres? C'est parce que Jésus n'a pas dit « l'Esprit vous conduira dans toute la Bible », mais dans toute la vérité. Un croyant ne pourra interpréter la Bible selon l'Esprit que dans la seule mesure où Dieu aura détruit son orgueil, sa dureté, son égoïsme, etc. Le chrétien ne comprend réellement les Écritures que dans la mesure où il a été sanctifié par l'humilité et la charité. Si l'Esprit Saint conduit dans toute la vérité, une âme sale est conduite dans toutes les erreurs. N'oubliez jamais ça. Jésus était saint, doux et humble de cœur. Alors son esprit est également saint, doux et humble. Et celui-ci ne conduira dans la vérité que ceux qui se seront laissés rendre saints, doux et humbles de cœur. Ça coule de source. Parce que si l'esprit conduit dans toute la vérité, l'orgueil conduit dans toutes les erreurs. L'esprit de Dieu est Dieu, et Dieu est amour. Alors l'amour de Dieu conduit de plus en plus dans une interprétation juste des Écritures. En lisant la Bible, celui qui perd de vue un seul instant que Dieu est amour s'engage dans une mauvaise direction d'interprétation à tous les coups. L'Esprit Saint n'a été déposé en nous que sous la forme d'une semence, puis ce n'est qu'avec beaucoup d'obéissance et de mort à nous-mêmes, et à coups d'années et de dizaines d'années, que l'Esprit de Christ se répand en nous et grandit en force et en puissance. Alors, plus un chrétien est sanctifié par l'Esprit, plus il va comprendre les Écritures selon l'Esprit. J'aimerais maintenant parler d'un sujet très impopulaire, l'unité, la sincérité et la tolérance. Des mots qui font très très peur. Quand un chrétien entend ces mots, généralement, il lève les deux bras en l'air, là, puis il se met à crier « mon Dieu, t'as été séduit par le diable, Jocelyn. Mon Dieu, on voit bien que l'apostasie est là, le diable parle par ta bouche, Jocelyn. Le diable, la fin des temps est là, le diable. Hein? » Des gens m'ont répondu comme ça, là. Mais restez calme, là. La Bible parle de ces choses-là, que ça nous plaise ou non, elle en parle, puis en plus, elle en parle en bien. Je tiens d'abord à faire clair que je ne suis pas catholique, mais je ne suis pas protestant non plus. Je suis un chrétien évangélique. On a le droit de ne pas être catholique. On a le droit de ne pas croire ce que l'Église catholique enseigne. On a le droit. Mais quand je vois des protestants, là, purs et durs, ouvrir la bouche là, pour condamner, je dirais plutôt déchirer toutes les doctrines catholiques, même celles qui sont erronées peut-être, mais bénignes, et inoffensive en soi, puis qu'en même temps, eux, ils se permettent des attitudes horribles là, et indignes du nom de chrétien. Là. Je vois tant d'hypocrisie dans leur caractère là, que je cherche un endroit pour vomir. Chez les cathos, là, tout n'est pas gravissime comme erreur, là. Il y a chez les catholiques, comme ailleurs, des doctrines plus ou moins fausses, appuyées sur des versets plus ou moins discutables, mais des doctrines qui font de mal à personne. Il y a chez nous, comme chez eux, des croyances qui sont simplement erronées. Tout n'est pas diabolique, là. Avant de censurer une croyance, c'est très important de bien la peser, puis d'en bien mesurer la juste portée spirituelle. S'il s'agit d'une erreur superficielle, d'une doctrine impuissante en soi, neutre, ou dont la gravité est négligeable, alors c'est inutile de faire toute une histoire, de sortir les gros canons comme s'il s'agissait de la Troisième Guerre mondiale, là. Il y a des chrétiens qui vont prendre une toute petite erreur là, chez les cathos, là, puis ils vont vous étirer les conséquences là, jusqu'en enfer. Moi, je dis que c'est très malhonnête de faire ça. Je suis pas d'accord avec ce genre de procédé-là. Là. Soyons justes. On est des chrétiens, là. Soyons justes. Soyons équitables. N'ayons pas la maladie de tout exagérer tout le temps. Ne soyons pas comme celui qui, pour pouvoir noyer le chien de son voisin, l'accuse de la rage tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez comment les protestants durs parlent, là, et méprisent et déchirent les catholiques, c'est très révélateur de leur esprit. Ils disent vouloir être fidèles à la parole, mais ils renient l'esprit d'amour qui l'a inspiré. L'esprit de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu pour les hommes, même pour les méchants catholiques, là. Fuyez celui qui diabolise tout sans cesse. Rejetons les préjugés et informons-nous avant de lancer des invectives à tout vent. Moi, je vois tous les jours là, sur Facebook des chrétiens rouer les catholiques de coups comme des vrais sauvages là, pour des croyances qui font de mal à personne en réalité. Là. Il y a des croyants, je vous jure, on dirait qu'ils ont des dédoublements de personnalité. Là. Ils sont super spirituels quand ils parlent de Dieu. Là. Puis quand ils rencontrent un catholique sur leur mur qui parle un temps soit peu de sa foi, ils entrent dans une espèce de transe haineuse, là, puis ils se mettent à taper sur lui comme des aveugles, avec une férocité puis une cruauté impitoyable. J'ai pas peur de le dire, ces croyants-là ne savent pas de quel esprit ils sont animés, là. C'est pas de Dieu, ça, d'agir comme ça, là. C'est pas le Saint-Esprit qui les inspire, là. Si vous croyez que les cathos sont des âmes perdues, alors prenez l'attitude que Jésus avait devant les âmes perdues. Si vous avez l'Esprit de Christ, vous aurez en vous les sentiments de Christ. Matthieu 9:36, par exemple, voyant la foule, voyant les cathos, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est ça l'attitude à prendre envers des pécheurs. Et l'attitude de sauvage que les protestants prennent envers les catholiques, là, non, c'est pas l'esprit de Jésus, ça. Non, c'est tout le contraire, là. Puisse l'Esprit de Dieu élargir en nous les entrailles de miséricorde, afin de connaître toute la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alors, ceci dit, je veux parler de la compromission, puis de la phobie du mot « compromis » chez les chrétiens. Le mot « compromis » fait tellement peur là, que les chrétiens ne sont même pas jamais allés en lire la définition dans le dictionnaire, tellement qu'ils ont peur d'être contaminés ou je sais pas quoi, ou d'attraper une maladie, là. Frères et sœurs, le mot « chien » n'a jamais mordu personne. Je suis allé voir, moi, dans le dictionnaire, grosso modo, « compromis », ça veut dire « tolérance, accord, conciliation et rapprochement ». Le Seigneur n'est pas contre ces choses. Quelqu'un me dit l'autre jour, « Oui, mais la vérité, c'est sans compromis, quelles que soient les conséquences. Ben, » je suis pas d'accord avec ça. C'est encore un dicton évangélique populaire qui se trouve pas dans la Bible, mais qui a été répété tellement de fois qu'on a fini par croire qu'il était. Il y a des mauvais compromis, puis il y en a des bons. La Bible est pleine d'exemples de bons compromis. Dieu est plein de compromis. Puis là, si vous voulez déchirer vos vêtements, là, puis ramasser des pierres pour me les lancer, là c'est le bon moment, là. Je sens qu'il y en a qui en ont tellement envie depuis tantôt, là. Ben, allez-y, là, c'est le temps, là. Le plus grand compromis que l'on observe dans la Bible, c'est le compromis de l'amour, et qui consiste à faire grâce au prochain sur des points doctrinaux plus ou moins secondaires, en vue de préserver la communion fraternelle et l'unité dans l'Église. En Romains 14, 2, 3, parle au sujet de l'idolâtrie. Ça, waouh, l'idolâtrie, ça ne rit pas avec ça. Hein. Ça a toujours été un sujet très important chez les chrétiens. Là. Paul dit, « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli lui aussi. » On parle des viandes sacrifiées aux idoles. Le chrétien pouvait-il en manger ou pas? Cette histoire-là, là, ça a failli faire éclater l'Église en mille morceaux. Là. Paul s'amène, lui, puis il règle la question en deux coups de crayon, en deux phrases, qui se résument simplement comme suit. « Par amour, tolérez-vous en opinion et faites compromis pour préserver l'unité fraternelle dans l'Église. » Le Seigneur n'est pas contre la tolérance. La Bible nous exhorte longuement à faire des compromis pour la paix et pour conserver l'unité chrétienne dans l'Église. En Éphésiens 4, Romains chapitres 14 et 15, et beaucoup, beaucoup d'autres passages semblables. Puis ces chapitres-là là, se trouvent dans toutes les Bibles, même dans la vôtre, pas juste dans la mienne. Il y a aussi les compromis à ne pas faire. Par exemple, à propos des dogmes évangéliques, saviez-vous qu'il existe des dogmes évangéliques, des bons dogmes? Ben là, vous le savez. Par exemple, Jésus est Dieu manifesté en chair. C'est un dogme évangélique, une vérité sur laquelle on ne peut pas faire de compromis. Jésus naît d'une vierge. Jésus, fils de Dieu. L'Esprit-Saint est Dieu. La résurrection physique de Jésus-Christ. Que le Christ est l'unique sauveur et médiateur. La résurrection à venir des croyants. Parce que ce sont tous des vérités bibliques sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? OK. Soit dit en passant, là, toutes les vérités que je viens d'énumérer là, sont des dogmes catholiques également. Alors, ils ont ça de biblique et de commun avec nous, que ça nous plaise ou non. Ça ne sert à rien de grincer des dents, là. C'est un fait. Puis si vous avez la moindre honnêteté chrétienne, là, vous êtes obligé de dire Amen. Là. Alors, vous venez de faire une grande découverte aujourd'hui. Tout n'est pas diabolique chez les cathos. Un autre domaine sur lequel on ne peut pas faire de compromis, c'est envers ceux qui, se nommant frères, vivent en des péchés graves, qui s'en font un sport, sans se repentir et sans aucune intention de le faire non plus. Dans ce cas-là, la Bible dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Il n'y a pas de compromis à faire à ce niveau-là non plus. À part ces deux domaines-là, là, c'est-à-dire à part les vérités chrétiennes de base et la pratique du péché volontaire, moi je ne vois que de bons compromis. Lisez 1 Corinthiens 13, par exemple, sur la charité, puis vous allez voir tous les compromis que la charité demande. Par exemple, l'amour excuse tout. C'est pas un beau compromis, ça? Il y a aussi le compromis de l'unité. On en a parlé, là, je viens juste d'en parler, Romains chapitre 14, c'est le plus grand chapitre sur la tolérance et les compromis fraternels. On y voit Paul faire effort pour unir deux positions chrétiennes tout à fait opposées. Là. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre croit devoir s'abstenir de tout. Puis les deux camps se faisaient la guerre dans l'Église. Il y a un parti accusé l'autre de participer à une pratique idolâtrique, et l'autre les traitait de bébés lala sans discernement. Paul règle la question en faisant appel à une base commune, qui est la sincérité de cœur devant le Seigneur. On a parlé tantôt que le but du commandement, c'est une foi sincère. La sincérité, c'est important. La sincérité de cœur devant le Seigneur, c'est ça qui est le plus important, qui a la prédominance sur les doctrines, sur les croyances, sur les convictions. Paul écrit « Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu lui aussi. Ne vous jugez pas les uns les autres, et aussi que chacun de vous complaise au prochain. » On a là le compromis de l'unité. Paul demande de regarder à la sincérité. Il fait appel au bon sens chrétien. Il rappelle aux croyants que la sincérité de cœur devant le Seigneur est plus importante que les opinions. Également, frères et sœurs, soyons les imitateurs de Dieu. Dieu fait des compromis d'amour envers nous à tous les jours. Michée 7:18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, c'est-à-dire qui ferme les yeux, car il prend plaisir à la miséricorde. Les amis, qu'est-ce que la miséricorde, sinon un compromis à l'égard de la justice? Si Dieu voudrait être parfaitement juste, là, on aurait plusieurs coups de verge à chaque jour pour tous nos péchés, nos manquements et nos omissions. Mais Dieu fait compromis à sa propre justice et nous fait miséricorde. Psaume 103:10. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous voyons que Dieu lui-même fait des compromis envers sa propre justice pour l'amour de nous. Alors les compromis fraternels que nous faisons pour l'amour de la paix ne sont pas des faiblesses ou des péchés, mais des vertus. C'est la vertu de charité. Et par cette charité, nous nous rendons semblables à Dieu. Soyons les imitateurs de Dieu. Paul aussi faisait beaucoup de compromis en évangélisant. Je cite, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Les compromis qu'il a reprochés à Pierre de faire en Galates chapitre 2, il les a faits plus tard lui-même au centuple. Ici, on le voit. À l'époque, Paul était jeune et un peu prétentieux. Il a voulu faire son petit coq et se croire plus grand que l'apôtre Pierre devant tout le monde. Mais le Seigneur a fini par lui montrer que c'était Pierre qui avait raison, que c'était lui qui était dans l'erreur. On voit ici le compromis de l'évangéliste qui ferme les yeux sur beaucoup de choses afin de gagner les âmes, selon qu'il est écrit en Ésaïe 42:19 « Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme un messager que j'envoie? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle, comme le serviteur de l'Éternel? » L'évangélique a un autre dicton. « La sincérité, c'est pas la vérité, car la sincérité ne sauve pas. » On en a parlé un peu tantôt de la sincérité. On a vu que ça comptait pour tout. Moi, d'après ce que je vois dans la Bible, la sincérité est déjà de la vérité. Quelqu'un d'autre me dit, mais on peut être sincère et complètement à côté de la plaque. Être sincère ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. Je lui ai répondu, être sincère dans sa foi, c'est le milieu de la plaque. La sincérité fait foi de tout aux yeux du Seigneur, comme on l'a vu tantôt. Rappelons-nous de la pauvre veuve qui, dans son innocence, là, est allée donner aux pharisiens tout ce qu'elle avait pour vivre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a vraiment pas eu de discernement et l'a donné aux ennemis de Jésus. Cependant, le Seigneur dit qu'aux yeux de Dieu, elle avait donné plus que tout le monde, sous-entendant qu'elle allait en avoir une récompense un jour. Cette veuve était dans l'erreur, mais avait le cœur au bon endroit. Dans son cœur, là, c'est au Seigneur qu'elle donnait. Puis Jésus a dit que Dieu allait la récompenser pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de ce genre-là dans la Bible, où nous constatons que Dieu regarde la sincérité de cœur et non aux pratiques extérieures. Puis là, je pense aux cathos, là où ils s'en trouvent qui servent le Seigneur avec sincérité et selon leur connaissance. Je me dis, peu importe leur erreur, Dieu regarde leur cœur. Devenons les imitateurs de Dieu. Encore à propos de la sincérité, Jérémie 29, 13-14, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » On voit ici le salut côte à côte avec la sincérité. Alors, frères et sœurs, éprouvez les dictons évangéliques pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'il s'agit d'une tradition d'homme qui contredit la Bible. Jésus a dit, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde », vous n'auriez pas condamné des innocents. » À la lumière de cette parole-là, tout le sens des autres Écritures pivote et nous remet dans le vrai contexte d'une interprétation biblique miséricordieuse à l'égard de notre prochain. Hélène Vasseau a dit, « L'amour des Écritures, au dépens de l'amour du prochain, c'est un péché. » Il va sans dire aussi que les croyants dogmatiques perdent le respect d'un grand nombre autour d'eux. On a rarement du respect pour ceux qui ont le dédain de nous. Dieu ne déteste pas les compromis, nous les détestons. C'est la propre justice qui est en nous, qui en est insultée. Sondez-vous vous-même, allez voir. Un autre exemple, l'Écriture dit « supportez les faibles, usez de patience envers tous ». Il y a ici encore le compromis de la patience envers les faibles. Le Seigneur n'est pas contre ces choses non plus. Matthieu 1, 19. Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, il est bel et bien contrevenu à la loi ici. Joseph a refusé de dénoncer Marie publiquement comme la loi disait de faire. Il a fait un fichu de compromis avec les Écritures ici. Mais étrangement, il a été déclaré juste. Joseph a fait un compromis d'amour et ça a été plus agréable au Seigneur qu'une mise en pratique rigide et sans cœur de la loi. Autre chose, lorsque Jésus a refusé d'autoriser la lapidation de la femme adultère, comme la loi le commandait, il est allé directement contre la lettre de la Bible lui aussi. Il a fait un compromis avec les Écritures, un compromis de miséricorde que Dieu a honoré. Puis quand le sacrificateur Achimélec a donné à David des pains consacrés, il a fait une sérieuse entorse à l'encontre de la loi lui aussi. Mais le Seigneur l'a justifié, car c'était pour sauver une vie précieuse. Alors, en tout et partout, nous voyons que la miséricorde, la sensibilité et la charité sont immensément supérieures en spiritualité que la lettre de la loi. Jacques 2,8 « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » La loi royale, c'est-à-dire la loi qui est au-dessus de toutes les autres lois. Toute loi est soumise à une loi qui lui est supérieure. Et la loi qui est la plus haute, c'est l'amour du prochain. Bon, ce genre de compromis dérange la propre justice du cœur légaliste. Ceux qui aiment la Bible plus que Dieu sont offensés par l'amour de Dieu. Ils vont être offensés par ces choses-là. Le légaliste ne veut pas faire de compromis parce que c'est avec ça qu'il se sent supérieur aux autres. Si on lui enlève ça, il a l'impression qu'il lui reste plus rien en dessous des pieds là, pour se glorifier. Alors il devient très très malheureux. Tout son système de valeurs et d'estime de soi repose sur le non-compromis. Tout son ego s'écroule par terre si on lui enlève ça. C'est la raison pour laquelle il combat si fort, celui qui s'attaque à son éléphant blanc, là, d'être fidèle à la parole de Dieu, là. Vous le savez que c'est vrai ce que je dis, là. Je le sens en dedans de moi-même. Là. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous le savez au fond de votre cœur que c'est vrai ce que je dis. Là. On comprend mieux maintenant pourquoi en Matthieu 25, les croyants sont jugés, non à leur fidélité à la parole de Dieu, mais à l'amour qu'ils auront eu ou n'auront pas eu envers le prochain. L'enseignement de Jésus jetait par terre tout le système de valeurs personnelles des pharisiens. Et il jette par terre tout le système de valeurs des protestants évangéliques d'aujourd'hui également. Soyez véridique, c'est correct, mais sans être dogmatique. Laissez de la place. Laissez de la largeur un peu aux gens. Le dictionnaire définit le mot dogmatique de la façon suivante. Tranchant, sentencieux, doctrinaire, intolérant, autoritaire, fanatique, intransigeant, rigide, sévère. Puis là, je ne parle pas des dogmes catholiques, là. Les dogmes catholiques ne sont pas tranchants, sentencieux, intolérants, fanatiques, intransigeants, rigides et sévères. Comme je comprends les choses, le dogme catholique, c'est une vérité essentielle à la foi ou qui aide la foi. Les dogmes catholiques ne me font pas peur. Ce sont les dogmes des légalistes évangéliques qui me font peur, car ils peuvent être vraiment cruels, ceux-là. Plusieurs dogmes catholiques sont très bibliques, comme on l'a vu tantôt, Jésus est Dieu, l'Esprit-Saint est Dieu, que Jésus avait les deux natures, la nature divine et humaine, etc. Les dogmes catholiques ne m'inquiètent pas. Ils ne sont pas nuisibles à la foi. Ce qui m'inquiète, ce qui est dévastateur, c'est bien davantage le dogmatisme qu'il y a chez nous et qui est de vouloir toujours imposer de force des croyances ou des façons de faire aux chrétiens, qui les rend malheureux en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de légalisme dans nos églises, de dureté, de sévérité, d'autoritarisme et de manque horrible de compassion en général. Et Dieu merci, vous ne trouverez pas ça chez les cathos, ces choses-là. Au lieu de pointer du doigt les 9 dogmes de l'Église catholique, on devrait bien plutôt regarder les milliers et les dizaines de milliers de nos faux prophètes et de nos mauvais pasteurs qui nous contraignent à les suivre sous peine d'anathème, qui nous imposent leurs enseignements, nous dictent autoritairement leurs lignes de conduite dans nos églises, qui nous vident les poches pour s'enrichir, qui rendent notre marche chrétienne lourde et rendent tout le monde malheureux. Je trouve très hypocrite cette manie des protestants de toujours pointer leurs doigts sur les fautes de l'Église catholique, alors qu'eux font 1000 fois pire à peu près dans tous les domaines. Martin Luther disait « Chaque croyant possède le droit de lire la parole et de l'interpréter selon sa conscience. » OK. Mais moi, je dis, si tu veux interpréter la Bible selon ta conscience, fais-le. Mais alors, n'impose pas ta conscience sur celle des autres. Et je remarque que la majorité des croyants qui s'attribuent le droit et la liberté d'interpréter la Bible selon leur conscience essaient en même temps de la retirer aux autres. Si le catholique croit que le Christ est bel et bien dans les éléments de la Sainte Cène, laisse-le tranquille. La Bible dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang ». Le catho y voit la présence réelle du Seigneur. Il interprète la Bible selon sa conscience. Pourquoi tu le diabolises? Laisse-les tranquilles. C'est son droit. Pourquoi tu réclames le droit d'interpréter la Bible selon ta conscience et que tu essaies de retirer ce même droit aux autres, espèce d'hypocrite? Les protestants condamnent, ils jugent, ils diabolisent tous ceux qui ne croient pas comme eux, qui n'interprètent pas la Bible comme eux. Frères et sœurs, tous ceux qui dogmatisent leurs croyances personnelles et diabolisent celles des autres ne sont que des hypocrites religieux. Les gens légalistes et dogmatiques n'ont pas l'Esprit de Jésus en eux. Au lieu de juger avec miséricorde, ils condamnent avec dureté et même avec sauvagerie. Ces gens-là ne méritent pas d'avoir une Bible entre les mains. Il est indigne d'un chrétien de se faire un fouet de la Bible pour frapper sur les autres, pour frapper sur les cathos. Les protestants prennent la Bible et en frappent le catholique avec fureur. Moi, je vous le dis, mes petits salauds, Dieu vous jugera un jour avec la même sévérité que vous avez jugé les autres. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière votre Bible ou vos versets tordus. Le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Repentez-vous et accordez désormais de la latitude doctrinale aux autres si vous voulez que Dieu vous en donne. Vivre et laisser vivre, croire et laisser croire. Avec la Bible vient la tentation de l'imposer. Puis moi j'ai vu par expérience que ceux qui vous imposent leur interprétation de la Bible sont toujours dans l'erreur. L'absence de compassion, d'indulgence et de tolérance fraternelle est toujours la marque d'une âme réprouvée et prête d'être maudite. Si vous n'avez pas l'amour des âmes, l'amour des gens, cessez de dire que vous êtes fidèle à la parole de Dieu, parce que vous en êtes à 1000 lieues. Je le dis très solennellement, si vous avez la vérité sans la charité, vous irez en enfer avec votre vérité. Vous irez en enfer avec votre Bible dans les mains. Le jugement de Dieu sera sans compromis pour ceux qui étaient sans compromis. Être dans la vérité maintenant, encore une expression biblique utilisée hors de son contexte par le légaliste. Une expression biblique qui sert de masque et de paravent à beaucoup d'activités charnelles. Les pharisiens croyaient en un salut par la doctrine. Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits, disait-il, Jean 7, 49. Le salut pharisien, c'était un bon gros salut, bien dur, bien froid, sans amour, puis bien radical, comme les légalistes l'adorent encore aujourd'hui. Dans la bouche de certains chrétiens, quand ils disent « Je suis dans la vérité », ils veulent plutôt dire que tous les autres sont dans l'erreur. Être dans la vérité, pour eux, se réfère à leur interprétation personnelle de la Bible. Si vous interprétez la Bible comme eux, vous serez dans la vérité. Dans le cas contraire, vous êtes dans l'erreur. Alors, ils ne sont pas dans la vérité, mais ils sont dans l'orgueil. Embrasser toutes les doctrines protestantes, ça ne vous sauvera pas. Prouver aux catholiques qu'il est dans l'erreur ne vous sauvera pas non plus. Il y a des tas de personnes qui iront en enfer avec leur vérité. Parce que la vérité doctrinale ne sauve pas, c'est l'amour de la vérité qui sauve. Un sincère attachement amoureux à Jésus-Christ et à son évangile est la seule chose qui sauvera votre âme. La vérité, ce n'est pas un ensemble de doctrines qu'il faut croire ou ne pas croire. La vérité est une personne, selon qu'il est écrit, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes entrés dans la vérité avec Dieu lorsque nous détestons les choses qu'il déteste et que nous embrassons de cœur les choses qu'il aime. Et encore une fois, ça n'a rien à voir entre être catholique ou protestant. Tu dis que tu possèdes la vérité, on reconnaît l'arbre de la vérité au fruit de la vérité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, avant d'aboyer ta vérité sur les autres, montre-moi comment ton caractère est rempli des fruits de l'esprit. Parce que, ne l'oublie pas, l'esprit qui conduit dans toute la vérité est le même qui conduit dans tous les fruits de l'esprit. Les possèdes-tu, ces fruits-là? Est-ce que ceux qui te connaissent rendent le témoignage que tu les possèdes, ces fruits-là? Est-ce que c'est remarquable? Laisse-moi te dire une chose, mon petit docteur ou mon petit prophète. Le jour où tu vas posséder dans ton cœur et caractère ces fruits-là, tu n'interpréteras plus du tout la Bible comme tu le fais présentement. Tu vas totalement avoir perdu ton esprit vindicatif, radical et de non-compromis pour la parole de Dieu. Celui qui possède les fruits de l'esprit en lui perd toute arrogance, toute insolence, toute hauteur, et toute infatuation. Ne dis pas que tu es dans la vérité si tu manques d'amour envers tes frères, parce que la vérité, c'est l'amour. Si tu cesses de visiter, par exemple, ou d'adresser la parole à ton frère parce qu'il a changé d'église, tu n'as pas la fidélité, fruit de l'esprit. Une amitié qui se termine est une amitié qui n'a jamais commencé, n'était pas établie sur des bases spirituelles. C'est le propre de ceux qui sont dans l'erreur absolue de se croire dans la vérité absolue. Les pharisiens avaient leur gros nez dans la Bible à tous les jours de leur vie. Pourtant, ils étaient religieux à faire peur. Être religieux, c'est être dur, c'est être radical, c'est d'être sans compromis. Envers personne. Pas de miséricorde pour personne. Si tu es vraiment dans la vérité, tu vas donc posséder le caractère de la vérité. Si tu es vraiment dans la vérité, cette vérité te rendra semblable au véritable. Dans le cas contraire, c'est que tu n'es jamais né de nouveau. Quand Jésus a dit « Je suis la vérité », il ne voulait pas dire « Je suis la théologie » ou « Je suis la bonne doctrine ». Il faisait plutôt référence à sa nature même. Le mot « vérité » prend donc le sens de révélation. En disant « Je suis la vérité », Jésus voulait dire « Je suis la révélation de Dieu ». Jésus était la révélation personnifiée de Dieu. Hébreux 1, 2, 3 « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Jésus n'est pas descendu sur la terre avec un paquet de doctrines. Il est venu représenter le caractère de Dieu. Jésus était la révélation du cœur de Dieu, de son amour, de sa puissance, de sa gloire, de son caractère et de ses attributs, ce qui n'a rien à voir avec des doctrines à croire ou ne pas croire, rien à voir avec le fait d'être catholique ou protestant, orthodoxe ou baptiste. Le protestant croit posséder la vérité du seul fait qu'il n'est pas catholique. Est-ce que c'est pas aberrant tout ça? Mais la vérité n'a rien à voir avec votre position à l'égard de l'Église catholique. La vérité a tout à voir avec votre position à l'égard du Christ. Être dans la vérité n'a rien à voir au fait que vous soyez catholique ou protestant. Le protestant et le catholique peuvent être dans la vérité ou être dans l'erreur tous les deux. C'est leur relation personnelle avec Christ qui fait foi de tout, pas leurs croyances respectives. C'est la position en Christ qui définit le chrétien, pas les doctrines, pas les églises, pas les pratiques extérieures. Être dans la vérité, c'est être en paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, puis c'est de marcher selon le commandement de son amour. Être dans l'erreur, c'est le rejet de Jésus-Christ, c'est une marche contraire à la charité. Être dans la vérité se réfère donc à notre relation avec Dieu et à la communion de sa ressemblance. Rien à voir avec le fait d'être catholique ou protestant. Nous ne pouvons pas posséder la vérité. C'est elle qui nous possède. Et ce, dans la même mesure où nous adoptons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ et le laissons transformer notre caractère semblable au sien. Notre amour, notre paix, notre bonté, notre humilité, notre compassion et notre douceur témoignent dans leur même mesure que nous sommes dans la vérité et à l'inverse que nous sommes dans l'erreur. Plus nous sommes à la ressemblance de Jésus, plus nous sommes dans la vérité. Et plus notre caractère est éloigné de son caractère, plus nous sommes dans l'erreur. C'est aussi simple que ça, mes amis. En 2 Thessaloniciens 2:10, il est dit que l'homme de péché viendra avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà le contexte de l'expression. La vérité, c'est l'Évangile. Et l'amour de la vérité, c'est la foi et la sincérité qui le fait accepter de bon cœur. Parce qu'ils ont aimé leur péché plus que l'Évangile de Christ qui leur a été présenté, Dieu les livrera simplement à l'endurcissement de leur cœur rebelle et à la séduction de leur péché préféré. C'est ce que le verset veut dire. Ce qui est arrivé à Israël après la crucifixion, c'est-à-dire leur réprobation, va arriver un jour à toutes les nations de la terre pour la même raison. L'Évangile va être prêché partout dans le monde, ils vont le rejeter, alors ils vont être réprouvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset cité très souvent en milieu légaliste. Dans ce milieu, l'amour de la vérité est devenu l'amour de l'orgueil, ou l'orgueil de la vérité plutôt. Mais c'est en se vantant de posséder la vérité qu'on la perd devant Dieu. Beaucoup se glorifient de leur connaissance, mais ils n'aiment pas les gens. Ils aiment seulement leur écraser leur Bible dans la figure. Certains ont quitté l'Église catholique en recevant le Seigneur, mais moi je dis que ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas le fait de quitter une Église pour entrer dans une autre qui va te faire entrer en Christ. En fait, moi je crois que vous auriez peut-être dû rester dans le milieu où vous étiez, vous auriez été beaucoup plus utile aux autres. Ce qui ne va pas avec les protestants, c'est qu'ils évangélisent et qu'ils protestantisent en même temps, alors que ce n'est pas nécessaire du tout. Il n'y a absolument rien de nuisible à votre croissance spirituelle dans l'Église catholique. Il n'y a rien de mauvais ou de nuisible dans l'Église catholique au point qu'il faille en sortir. C'est seulement qu'il leur manque des choses. Il leur manque de la musique, de la louange, plus d'enseignement et des partages autour de la parole. Le nouveau converti se retrouve dans une nouvelle église, puis en peu de temps, il est tout empêtré dans un fatras de doctrine à caractère haineuse qui ne l'avance absolument pas dans la foi. C'est ça que je déplore. Je ne dis pas que les églises évangéliques doivent disparaître, je dis que le protestantisme doit disparaître. Ce n'est qu'une nuisance à l'évangélisation. Là où il n'y a pas d'amour pour les âmes, peut-on encore parler de vérité? Je ne le crois pas, car la vérité, c'est la charité. Si Dieu est amour et que Christ est la vérité et que nous sommes en lui, alors être dans la vérité, c'est être dans l'amour de Dieu. Dans l'Église maintenant, avoir l'amour de la vérité, ça se traduit à avoir l'amour fraternel. 1 Pierre 1:22 dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité » pour avoir un amour fraternel sincère. La vérité, c'est la grâce en nous qui nous pousse à nous aimer. Pour appuyer ce que je dis, laissez-moi vous lire les 5 premiers versets de la seconde épître de Jean. L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde, la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Jean fait abondamment clair ici que la vérité, c'est pas la théologie luthérienne, mais la grâce de Jésus en nous qui nous fait marcher dans la charité. Et qu'en résumé, la vérité, c'est la charité. Et que la charité est la vérité. Si j'avais toute la connaissance, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Jésus a dit, « Vous sondez les Écritures, Jean 5, 39, et vous êtes dans l'erreur, Matthieu 22, 29. » C'est la teneur du cœur qui fait la vérité. Le cœur dur demeure dans l'erreur. Beaucoup ont le zèle de la vérité, mais pas l'amour de la vérité. Ce que plusieurs appellent l'amour de la vérité, c'est plutôt l'amour d'avoir le dernier mot, d'avoir raison, l'amour d'avoir de la vaine gloire, l'amour de l'argument, surtout l'amour de condamner ses adversaires. Celui qui a un esprit de dispute n'admettra pas qu'il entretient et obéit à un esprit malin. Il dira de lui-même qu'il a l'amour de la vérité. Mes frères et sœurs, ce ne serait pas la première fois que la chair, pour échapper à la croix, donne un nom saint à un sale péché. Même si on lui donne le nom d'amour de la vérité, l'esprit de dispute est toujours un esprit malin auquel on donne accès. C'est quelque chose de très sérieux. Beaucoup, beaucoup de chrétiens laissent volontairement un esprit malin entrer en eux pour briser l'unité de l'Église au nom de la vérité. Moi, je dis, si tu veux faire partie d'une Église, fais le bien. Sois soumis à l'autorité et travaille de pair avec elle dans l'harmonie, puis en marchant dans la même direction que le leadership, d'un même cœur, d'une même âme. Puis si, pour toutes sortes de raisons que ce soit, tu peux pas faire ça, là, à cet endroit-là, ben, au lieu d'attirer un châtiment sur toi-même, là, va chercher un endroit où tu vas pouvoir le faire. Tu vas rendre tout le monde heureux, puis tu vas être beaucoup plus heureux toi-même. C'est une chose vile que de faire au nom de la vérité ce que la vérité interdit de faire. Je parle des disputes, des querelles et des divisions. Dans un deuxième temps, avoir l'amour de la vérité, c'est également avoir reçu l'amour de l'humilité, qui se traduit en une soumission de cœur, qui ne refuse jamais d'être corrigé par un frère ou une sœur. À notre conversion, notre esprit s'est courbé devant celui du Seigneur. C'est ce qui lui a permis de nous éclairer et de transformer notre cœur. Alors comment en sommes-nous venus à oser imposer la vérité alors que nous l'avons reçue par la douceur? Si tu veux être radical en quelque chose, sois radical dans l'exercice de la charité. Si tu frappes du poing sur la table en parlant de Dieu ou de la Bible, c'est que tu n'as absolument rien compris au christianisme. Tu viens de faire la preuve que tu n'as jamais reçu l'Esprit de Christ ou que tu as totalement rétrogradé quelque part. Moi, j'ai beaucoup œuvré en milieu catholique. Les gens sont généralement sans beaucoup d'instructions bibliques vraiment profondes. Mais leur foi est simple, sans complications. Ce sont des âmes des plus faciles à édifier. Une seule parole porte plus de fruits dans leur âme que 1000 paroles prononcées aux oreilles du protestant propre juste, imbu de lui-même, puis qui croit tout savoir. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience bien des fois. Les protestants qui étudient la Bible peuvent être des personnes les plus endurcies au Saint-Esprit qui existent. Une correction sur le cœur orgueilleux ne fait que l'endurcir davantage. Et quiconque ne connaît pas son propre orgueil vit dans un aveuglement qui va lui être mortel. Le ministère de la vérité est de nous rendre comme elle, douce, humble, aimante, miséricordieuse, charitable en jugement. Le plus noble accomplissement du chrétien, c'est d'arriver enfin à posséder un cœur calqué sur le cœur de Jésus. Tout le reste n'est que vantardise, vaine gloire, enflure de l'intelligence qui mène à la perdition. Ceux qui parlent toujours d'être fidèles à la parole de Dieu, rien qu'à la parole de Dieu, je dis attention. Surtout quand il s'agit des jeunes là, qui ne ressemblent pas à Jésus du tout dans leur caractère. Méfiez-vous de l'enfant qui cite les Écritures. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Si vous n'avez pas eu une révélation de l'amour de Dieu qui a changé votre vie, vous ne comprenez rien à la parole écrite. Peu importe que vous l'étudiez nuit et jour depuis 15 ans. Le légaliste ne marche pas par l'esprit et ne veut pas laisser les autres y marcher. Le légaliste n'a pas d'amour et veut vous empêcher d'en avoir. Le légaliste ne connaît pas la liberté en Christ et veut aussi empêcher les autres d'en jouir. Le légaliste pratique un christianisme abâtardi, une chimère d'évangile mélangée avec le Deutéronome. Les légalistes sont les faux circoncis dont Paul disait aux premiers chrétiens de fuir comme la peste. Non seulement ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas le recevoir. Ils ont pour Dieu la gloire personnelle. Ils se plaisent en compagnie des autres brutes. Ils se prostituent avec la dureté. Ils veulent empêcher son peuple d'être heureux. Malheur à cette race de pharisiens revêtus de peau d'agneau qui parlent comme des dragons. Ils ont le sel de la mort sous la langue, et tous ceux qui les écoutent repartent avec tristesse et fardeau. Que Dieu fasse disparaître cette race maudite de la terre, et que le peuple de Dieu retrouve enfin la joie de son salut. Celui qui est humble est dans la vérité. Celui qui aime les âmes est dans la vérité. De même que celui qui a un amour fraternel qui dépasse les murs de son église. Beaucoup de personnes dans nos églises se sont converties à la Bible plutôt qu'au Christ. Ce ne sont pas de vrais chrétiens. Ils confondent la connaissance de Christ avec la connaissance biblique. Il suffit de les écouter parler pour remarquer que leur amour de la Bible est nettement supérieur à leur amour pour le Christ. Le Christ n'étant que l'accessoire de leur christianisme bizarre. La seule chose qui ouvrirait les yeux de tous ces gens-là, là, c'est que la Bible disparaisse, qu'elle devienne illégale, qu'elle leur soit enlevée. Ils verraient et comprendraient à quel point ils étaient en réalité pauvres, misérables, aveugles et nus spirituellement. Sans leur Bible, ils ne sauraient plus du tout vers quoi se tourner. Ils seraient comme ces vierges folles qui vont s'éveiller en panique en réalisant qu'ils n'ont plus d'huile dans leur lampe. Oui, sans leur Bible, beaucoup de chrétiens perdraient totalement leur repère, prouvant par là la pauvreté extrême de leur relation avec Dieu. Si votre christianisme n'a que l'épaisseur de votre Bible, vous êtes vraiment à plaindre. Ainsi, voyons-nous que les héros de la vérité, comme je les appelle, ne sont que des hypocrites avec une Bible. Je crois que l'heure vient où Dieu ébranlera de nouveau son Église. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Apocalypse 6:13. Je crois que l'heure vient où Dieu permettra que nos Bibles nous soient enlevées à la fin des temps, afin que l'Église soit purifiée et blanchie. C'est bien en vain que le chrétien se vante d'avoir la vérité biblique. Une vérité appuyée sur des mots et non sur la grâce ne vaut rien. Au ciel, nos doctrines n'impressionneront personne. C'est pourquoi il est dit que nous serons jugés selon nos œuvres. Rougis et tremble, si tu as plus d'ardeur pour la vérité de la lettre que pour la charité du cœur. Comme les priorités du Seigneur sont différentes des nôtres. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Malheur aux cœurs durs, car ils seront jugés durement. Malheur aux implacables, car ils ne pourront apaiser le Seigneur. Malheur aux inflexibles, car Dieu ne se laissera plus fléchir. Malheur aux insensibles, car ils seront jugés sans compassion. Malheur aux sévères, car ils seront jugés avec rigueur. Malheur aux cruels, car ils seront jugés selon leur cruauté. Malheur aux intraitables, car ils seront jugés impitoyablement. Malheur aux intransigeants, car ils seront jugés sans aucune pitié. Malheur aux rigoureux, car ils seront jugés avec rudesse. Malheur aux rigoristes, car ils seront jugés jusque dans les moindres détails fautifs de leur vie à leur tour. Malheur aux autoritaires, car ils seront jugés avec colère. Malheur aux exigeants, car leur jugement sera long et astreignant. Malheur aux inexorables, car Dieu ne sera pas non plus touché de leurs supplications. Malheur aux féroces, car ils seront jugés brutalement. Plusieurs possèdent une Bible, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Beaucoup de protestants ont ainsi été livrés à l'endurcissement de leur cœur et sont présentement en route pour l'enfer. Que Dieu leur vienne en aide. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors à vous qui avez l'Esprit de Jésus en vous, je dis, heureux les doux, car ils seront jugés avec douceur. Heureux les charitables, car ils seront jugés avec charité. Heureux les affectionnés, car ils seront jugés affectueusement. Heureux les prévenants, car ils seront jugés avec délicatesse. Heureux les esprits flexibles, car le Seigneur se laissera fléchir en jugeant. Heureux les cœurs tendres, car ils seront jugés avec des caresses. Heureux les esprits dociles, car ils seront jugés sans crainte. Heureuses les âmes compréhensives, car elles seront jugées avec indulgence. Heureuses les âmes sensibles, car elles seront jugées avec amour. Heureux les conciliants, car ils seront jugés par la paix qu'ils ont semée. Heureux les indulgents, car ils recevront indulgence. Heureuses les âmes bienveillantes, car elles seront jugées avec bonté. Heureuses les âmes bienfaisantes, car elles seront jugées favorablement. Heureuses les âmes gracieuses, elles seront jugées avec grâce, car la miséricorde triomphe du jugement. Amen.